Oui, cette parabole du bon samaritain est extrêmement célèbre et elle n'est pas un mystère pour grand monde. En effet, elle semble même la parabole la plus simple et je crois que tous les enfants la connaissent à partir de l'école biblique. En général, on la présente comme une histoire finalement un petit peu moralisante, montrant qu'il faut aider les gens. Alors en effet, ce bon samaritain est tout à fait remarquable parce que lui, il a aidé le personnage qui était blessé alors que les autres n'ont rien fait. Et donc la morale, je dirais, de cette petite histoire semble être bien qu'il faut être gentil avec tout le monde. Et puis pendant qu'on y est, on peut aussi en profiter pour dire un petit peu de mal des chrétiens engagés, des pasteurs et tous les autres, parce que la parabole montre deux personnages qui, eux, ne font pas bien leur travail, qui sont le prêtre et le lévite, c'est-à-dire des gens qui, normalement, auraient dû faire leur travail. Alors donc, effectivement, c'est une parabole à la fois démontrant l'importance du service, et je dirais aussi une parabole antiraciste. Bon, vous le savez, les Samaritains étaient très mal aimés de la part des Juifs. C'était leurs rivaux depuis des générations et des générations, et ils se détestaient au point que les Juifs n'adressaient jamais la parole aux Samaritains, et que même religieusement, les Samaritains n'avaient pas le droit de s'approcher d'un Juif. Sa religion lui interdisait, c'était un cas d'impureté, comme de s'approcher d'un cadavre. Et donc vous voyez effectivement là ce personnage, celui qui est montré comme étant le bon, le gentil, celui qui est l'exemple même de celui que l'on devrait suivre, eh bien il a été choisi par Jésus comme étant précisément celui qui est le plus normalement rejeté et réprouvé. Et ainsi, on pourrait effectivement s'arrêter là et cette parabole va très bien. Mais néanmoins, on peut aller plus loin sur plusieurs points. Tout d'abord, si on garde la signification ordinaire de cette parabole, telle que je l'ai exprimée, on peut voir que l'attitude du Samaritain est quand même plus que remarquable. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, il va rendre service à quelqu'un, il va aider un pauvre homme blessé, mais il fait plus que cela, parce que son attitude est vraiment, je dirais, il va au-delà de ce qui lui est demandé, en quelque sorte. Et en effet, il a été déjà remarqué, évidemment, que le Samaritain, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il va soigner le blessé, et ensuite, il va être prêt à payer pour sa pension auprès de l'hôpital et de l'hôtellerie à laquelle il le met. Or, normalement, dans la loi juive et la loi samaritaine, qui doit soigner un blessé et qui doit payer pour sa pension et pour son hôtellerie? Eh bien, c'est celui qui a blessé l'homme. C'est-à-dire que quelqu'un qui blesse quelqu'un, eh bien, il doit le soigner, le ramasser, et il doit le confier à une hôtellerie et payer la note. C'est-à-dire que, autrement dit, le Samaritain non seulement rend service, mais en plus, il fait ce qu'aurait dû faire le coupable. Et c'est déjà beaucoup plus fort. Et même, pourrions-nous dire, il prend le risque que quelqu'un l'accuse du meurtre ou du demi-meurtre. Ça m'est arrivé moi-même une fois, d'une façon malheureusement beaucoup moins grandiose pour ma propre personne, mais j'étais dans la rue et il y avait une moto qui était tombée, qui était renversée par terre sur le trottoir probablement, et comme je voyais qu'il y avait de l'essence qui coulait, je m'approche pour remettre la moto debout. Le propriétaire arrive à ce moment-là et m'invective en disant « Monsieur, vous avez fait tomber ma moto ». Je dis, mais j'ai rien fait tomber, je la relève. Il m'a dit, vous ne la relèveriez pas vous, si ça n'était pas vous qui l'aviez fait tomber. Et effectivement, c'est quelque chose de très vrai, voyez-vous. Et donc, le Samaritain prend là un risque réel, qui est de se faire accuser du meurtre de l'homme. Voire même, il prend sur lui toutes les conséquences du meurtrier. Alors, vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est à quelque chose qui a été aussi vu par, je dirais, les chrétiens depuis des millénaires, et en particulier par les pères de l'Église, qui ont toujours vu dans ce Samaritain l'image même du Christ. Oui, celui qui est rejeté de tous, celui que l'on considère comme étant atteint d'ignominie, celui que l'on n'ose même pas approcher, celui qui n'est ni prêtre ni lévite, qui n'est même pas un bon juif, eh bien c'est lui qui vient sauver l'humanité. Et non seulement il sauve l'humanité parce qu'il rend service. Et Jésus-Christ, il est sympathique. Il nous a donné des bonnes paroles, il nous a expliqué des choses, il a été très gentil avec nous, il a soigné des lépreux, etc. Mais c'est plus que cela. Le Christ s'est effectivement chargé de nos péchés. Et je crois que la parabole du bon samaritain explique ce grand mystère de la théologie que l'on nous rabâche peut-être depuis notre enfance, qui est de dire « le Christ s'est chargé de nos péchés ». Et ça, trop souvent, malheureusement, c'est compris comme une sorte de théologie un peu à la lessive anti-redéposition. Vous savez, la lessive, elle prend les molécules de saleté dans le linge, elle s'en charge, et puis elle part à la vidange avec. Comme si le Christ chargeait de nos péchés, il meurt sur la croix, et comme ça, on est débarrassé de nos péchés. Mais quand on dit que Jésus se charge de nos péchés, ça n'est pas cela. C'est comme le Samaritain s'est chargé du péché de l'assassin. Et au lieu de se dire « ça ne me regarde pas, ça n'est pas mon problème, moi je n'ai aucune culpabilité », le Samaritain a accepté de prendre sur lui cette culpabilité et d'en assumer par lui-même les conséquences d'une culpabilité qui n'est pas la sienne. Et c'est peut-être comme ça, effectivement, que l'on peut avancer dans cette théologie de la mort du Christ, qui accepte non pas de se rendre coupable à notre place, mais qui accepte d'une certaine manière de payer pour une faute qui n'est pas la sienne et qui accepte d'assumer les conséquences d'un péché qui n'est pas le sien. Et en faisant cela, bien sûr, ce n'est pas le fait qu'il accepte de s'accuser, mais c'est le fait qu'il aide quand même. Et donc le Christ vient, il nous aide, et en nous aidant, c'est vrai, il paye un certain prix qui est normalement le prix qu'aurait dû payer le coupable, mais c'est lui qui a accepté de le payer. Alors voyez-vous, cette parabole va donc beaucoup plus loin que la petite leçon de morale. Elle va plus loin que la leçon de morale qui consiste à dire qu'il faut aider les gens. Plus loin même que la leçon de morale qui consiste à dire faites du bien, et même si c'est pas vous qui avez jeté une ordure, eh bien ramassez-la quand même. Et même si le mal contre lequel auquel vous êtes confronté n'est pas de votre fait, eh bien ça ne vous empêche pas quand même d'essayer de le réparer. Et ce n'est pas parce qu'il y a des méchants et des affreux et des gens irresponsables qui ont fait des erreurs que vous devez dire « je n'y suis pour rien, je n'assume que mes propres erreurs ». Accepter d'aller au-delà et d'assumer même la responsabilité dans ce monde de choses pour lesquelles nous ne sommes pas coupables, c'est déjà une très grande chose. Et par-delà tout cela, bien sûr, oui, nous arrivons à toute une théologie, vous voyez, de la position du Christ. Mais néanmoins, cette parabole a évidemment encore de multiples facettes. Et quand on la lit comme ça, on pourrait continuer un peu encore avec cette analogie christologique. Mais néanmoins, on oublie le contexte dans lequel elle a été dite. Et en effet, le contexte peut permettre de la relire encore autrement. Vous le savez ou vous l'avez réentendu là, cette parabole a été donnée par Jésus en réponse à une question très précise. Qui était, après avoir évoqué, je dirais, ce qu'on appelle le sommaire de la loi, c'est-à-dire la nécessité d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même, le pharisien lui demande « Mais qui est mon prochain ?» Et Jésus répond par la parabole. Alors là, ça permet évidemment d'aller encore un petit peu plus loin parce que il faut comprendre que dans le judaïsme, la notion de prochain ne désignait pas, comme nous aujourd'hui, n'importe qui. Aujourd'hui, le prochain, c'est n'importe qui, aussi bien le petit Éthiopien qui meurt de faim, que le Chinois que je n'ai jamais vu, que ma concierge et que mon voisin, mon frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prochain est une sorte de synonyme d'humain. Bon. Mais dans le judaïsme, il n'en était pas ainsi. Le prochain, c'était vraiment celui de la famille. C'était le frère. Le prochain, c'était celui éventuellement du clan, de la tribu. Il est de ma tribu, il est mon prochain. Le prochain, c'est mon proche, comme on dirait aujourd'hui. Et si je vous disais, mais qui sont vos proches? Qui sont vos parents? Ce serait plutôt comme ça, si vous voulez, qu'il faudrait comprendre la demande. Et aimer son prochain, ça ne veut pas dire aime tout le monde, même si, par ailleurs, peut-être que, je ne suis même pas sûr, mais je crois que dans l'Ancien Testament, il est dit quand même qu'il faut aussi aimer l'étranger qui est sous son toit. Oui, celui qui est sous son toit, mais l'étranger qui est chez lui, je ne crois pas que l'Ancien Testament nous dise qu'il faille l'aimer. Il faudrait préciser tout cela, mais en tout cas, là, ce qui est demandé, c'est d'aimer son prochain, comme soi-même. C'est-à-dire celui qui est là, dans ma maison, éventuellement dans ma tribu, dans mon peuple, mais celui qui est de ma religion, celui qui est comme moi. Voilà. Et c'est celui-là que je dois aimer. Alors, il est vrai que cette notion de prochain était donc suffisamment floue pour que ça puisse pour poser des questions. Où est-ce que je m'arrête? C'est vraiment ma famille, mon clan, ma tribu, et celui qui est d'une autre tribu juive, c'est quand même mon prochain? Voilà la question. Et Jésus va répondre en disant, eh bien voilà, le prochain que tu dois aimer, eh bien, il est sans aucune considération d'appartenance, de peuple, de secte, de religion, ou de choses comme ça. Puisqu'il montre là un exemple, je dirais finalement d'amitié, d'amour, de miséricorde, de compassion, d'aide, entre deux personnes qui sont a priori deux personnes qui ne sont normalement pas prochains, mais qui sont fondamentalement séparés. Alors je crois que là, le Christ, effectivement, nous donne une approche quand même très, très forte, et pour nous aussi très violente, de cette question du prochain. Qui dois-je considérer comme ma propre famille, comme mon frère et mon proche? Eh bien non, ce n'est pas une question de lien du sang, ce n'est pas une question d'appartenance à la même religion ou au même pays. Ça peut être quelque chose d'absolument transversal, indépendant de la question de savoir s'il est de ma famille, de ma religion, de mon pays ou pas. Mais la question du prochain est au-delà de ça. C'est très important, surtout dans un contexte où nous sommes parfois, je dirais, frappés de plein fouet par des discours qui semblent être de bon sens et qui nous disent, vous savez, on aime son frère plus que son cousin plus que son compatriote et son compatriote plus que l'étranger. C'est-à-dire cette espèce de hiérarchie où finalement, effectivement, je dois aimer mon frère plus que mon cousin, plus que mon compatriote et plus que l'étranger. Sous-entendu, l'étranger, il n'est plus mon prochain et je peux très bien le haïr ou le rejeter. Il est très difficile de répondre à ce type de discours parce que on pourrait répondre en disant « Mais non, ça n'est pas vrai, il faut aimer tout le monde. » Et pourtant, si ce type de discours porte, c'est qu'au fond de soi-même, on se dit que ça n'est pas complètement faux et que d'une certaine manière, ce que je fais pour mon frère ou pour mon fils, je ne le ferai pas pour l'étranger dans la rue. Donc, finalement, j'aime quand même plus mon fils que l'étranger que je croise dans la rue. Et que vais-je donc faire de ce type de maxime, de proposition qui peut amener effectivement au repli sur soi, à la haine et au racisme? Eh bien, c'est là où je crois qu'il ne faut pas avoir une lecture trop enfantine du bon samaritain. Et le bon samaritain, la parabole du bon samaritain, ne dit pas non plus qu'il faille aimer tout le monde sans considération. Mais il faut regarder encore d'un peu plus près ce qui se passe. Parce qu'en effet, il y a là-dedans deux personnages essentiels. Je passe sur les mauvais qui ne m'intéressent pas. Deux bons personnages. Il y a le blessé et le samaritain qui va aider. Le samaritain va aider le blessé. Pourquoi? Eh bien, très honnêtement, je pense qu'il l'a aidé parce que il l'a rencontré. Et que de rencontrer un malheureux, ça nous donne une responsabilité. Le samaritain n'était pas quelqu'un qui courait partout en se disant « Il faut que je trouve un blessé, il y a sûrement des gens blessés quelque part, il faut créer des organismes pour aider les gens blessés par les brigands. » Non, c'était quelqu'un qui se promenait, il rencontre quelqu'un qui a besoin de lui, quelqu'un qui est malade, et bien dès le moment où il l'a vu, il est responsable de lui. C'est-à-dire que cette personne a croisé son chemin. Et le fait que cette personne ait croisé son chemin, ça le rend responsable de lui. Et il ne peut plus passer comme si de rien n'était. Ça, c'est très essentiel et je crois que c'est déjà un premier point important. Et d'ailleurs, Jésus conclut la parabole en disant « Va et fais de même ». Fais de même que qui? Le seul qui a fait quelque chose là-dedans, c'est le Samaritain. Donc ça veut dire, tu croises quelqu'un qui a besoin de toi, tu croises quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est vraiment en difficulté, eh bien, tu n'as rien d'autre à faire qu'à l'aider. Quelle que soit son origine, qu'il soit ou non ton prochain, ce n'est pas le problème, il est là, il a besoin de ton aide et tu l'aides, point. Mais on peut aller encore un petit peu plus loin, parce que, et ça aussi ça a été vu, je vous rappelle que la parabole est une réponse à la question « Qui est mon prochain ?» c'est-à-dire qui dois-je aimer comme mon frère ? Et à la fin de la parabole, Jésus ne dit pas qui a considéré le blessé comme son prochain ? Réponse, c'est le Samaritain, évidemment. Mais il dit qui a été le prochain de l'homme blessé ? Et ça aussi, ça a été vu depuis longtemps, parce que c'est très curieux que Jésus inverse la parabole à la fin et tout à coup se positionne non plus comme voyant les choses du côté du Samaritain qui aide et qui aurait aimé le blessé en le secourant, mais il se place du côté du blessé. Qui a été le prochain de l'homme blessé ? Alors il lui dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde à son égard, c'est le Samaritain. Et Jésus lui dit, oui, c'est bien ça. Alors là, ça complique tout, parce que du coup, alors qui est mon prochain ? Qui dois-je aimer ? Et on se dit, tiens, mais finalement, l'amour du prochain, c'est peut-être quelque chose de plus compliqué que d'aider matériellement et concrètement celui qui est dans la peine, et que l'amour du prochain, c'est peut-être un peu plus même que l'action sociale. Oui, oui, c'est très bien d'aider les SDF, c'est très bien d'aider les gens exclus, c'est très bien, ça, etc. Mais est-ce que c'est ça l'amour ? Est-ce que c'est ça l'amour ? Et j'ai l'impression que la parabole va effectivement plus loin, en disant, celui que je dois aimer comme mon frère, c'est celui qui s'est approché de moi, et celui qui, d'une certaine manière, m'a donné quelque chose. Et le fait que quelqu'un m'ait apporté quelque chose, que quelqu'un m'ait donné, que quelqu'un ait fait preuve de gratuité à mon égard, quelle que soit son origine, qui qu'il soit, quelle que soit sa religion, sa race, etc., celui qui m'a donné gratuitement, il est mon frère. Mais je ne dis pas que c'est un ami, quelqu'un que je dois aimer comme ça, il est mon frère. C'est-à-dire, il est mon frère, il est mon enfant, il est celui de ma famille. C'est quelque chose de très fort. Alors là aussi, je ne développerai pas trop l'affaire parce que je crois que c'est à chacun de continuer dans ce sens et de voir jusqu'où il veut aller. Mais vous voyez que la notion d'aimer, d'amour du prochain n'est pas là sans condition. Jésus ne dit pas, pour le blessé, mais tous sont ses prochains, le Lévite aussi, et il faut aimer le Lévite qu'il a laissé tomber comme son prochain. Il dit non, le prochain, c'est celui qui a exercé la miséricorde à son égard, pas les autres. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas une sorte d'indifférence globale, et c'est là où je voulais en venir. Je crois qu'il serait dangereux d'interpréter la parabole du bon samaritain dans le sens de dire, il faut aimer tout le monde, et finalement, peu importe les races, peu importe les religions, peu importe tout, de toute façon, je dois aimer tout le monde, parce que tout le monde est bon et tout le monde est gentil. Ça, c'est inefficace et faux. Et ce type de réponse est une réponse impossible, je dirais, à ce poison, du Front National, disant, j'aime mon frère plus que mon voisin, plus que mon cousin, plus que l'étranger. Parce que répondre, je dois aimer tout le monde, est évidemment une fausse réponse. Nous ne pouvons pas aimer tout le monde. Mais néanmoins, c'est de trouver d'autres catégories et de refuser, je dirais, une grille de lecture imposée à la société qui serait uniquement sur les liens du sang et sur les liens d'appartenance à une religion, à une nation ou à une culture. Mais qu'il y a des transversalités qui sont de l'ordre de l'humanité, c'est-à-dire de l'ordre de la rencontre et de l'ordre de la responsabilité qu'on peut avoir vis-à-vis d'un autre. Et puis enfin, le dernier point qui est peut-être encore plus important d'une certaine manière, c'est que si Jésus inverse sa parabole en disant « qui est le prochain de l'homme blessé ?» c'est pour dire peut-être certaines choses qui pourraient être tirées de ce que je viens de dire. Mais aussi, rappelons-nous que la question du prochain est liée à une autre exigence qui est celle d'aimer. Et donc je dirais que cette parabole répond aussi à la question essentielle qui est de dire « qu'est-ce qu'aimer ? Oui, je dois aimer, j'aime tout le monde, j'aime mon frère, j'aime... Oui, mais attendez, ça veut dire quoi aimer ? Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et jusqu'où je vais dans le fait d'aimer ? Est-ce que aimer son prochain, c'est de donner 100 € tous les ans à l'UNICEF ? Est-ce que c'est de donner 1 € au clochard du coin, au SDF ? Est-ce que aimer son prochain, c'est ça ? Ou qu'est-ce que c'est exactement ? Et là, la parabole va très loin, je crois, pour essayer de nous apprendre ce que c'est qu'aimer son prochain, mais l'aimer vraiment. Et en effet, ce n'est pas le Samaritain qui est montré comme un exemple d'amour. Le Samaritain n'est même jamais dit comme ayant aimé le blessé. On dit qu'il a fait preuve de miséricorde. Il a eu pitié, il a vu un type blessé, il l'a soigné, point. Ben après, d'ailleurs, il ne le ramène pas chez lui. Hein. Il le donne à l'aubergiste, lui donne 2 balles, débrouille-toi, je payerai ce qu'il faut, très bien. Il ne le considère pas comme son frère. Il le soigne, point. Ça, ce n'est pas une exigence religieuse. C'est une simple exigence d'humanité. Si on ne fait pas ça, on n'est pas des hommes, on n'est pas des humains. C'est la miséricorde. Oui, je dois faire preuve de miséricorde à l'égard de tous ceux que je croise sur ma route, sans distinction. Mais l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est autre chose. Aimer comme son frère, le faire sien, être dans une relation réelle avec l'autre, ça c'est autre chose. Et je crois effectivement que l'amour du prochain, ce n'est pas d'arriver par rapport à l'autre en disant « Mais mon ami, tu es blessé, tu es mauvais, tu es peu de choses. Heureusement j'arrive, je suis le sauveur et moi je vais t'aider, je vais t'apporter les choses. Ah, tu vois comme je suis bon, heureusement que je suis là. » Ça c'est pas de l'amour, c'est même peut-être dangereux. Parce que l'autre n'est qu'un objet. Et c'est vrai, le blessé n'est qu'un objet dans l'affaire. Il ne dit rien, il n'entend rien, il ne parle pas, il n'a pas de sentiment. Il n'est qu'un objet dont on prend soin. C'est bien, bien sûr, il faut aider les gens. Mais l'amour va plus loin. Parce que l'amour, c'est peut-être justement dans une relation avec quelqu'un. Non pas se positionner comme le sauveur, comme celui qui sait tout, comme celui qui aide, mais se dire... Si moi je t'aime, c'est que je reconnais que peut-être c'est moi qui suis blessé vis-à-vis de toi. Et aimer l'autre, c'est lui donner justement la position du sauveur. Et quand on dit dans la religion, vous savez, il faut voir dans le pauvre le Christ, c'est finalement très vrai. C'est pour dire, c'est peut-être lui le pauvre qui a une dignité, qui a une grandeur et qui peut faire quelque chose. Et c'est lui qui est un sujet. Et d'aimer quelqu'un, c'est de le reconnaître comme sujet agissant, comme quelqu'un qui a une dignité telle qu'il est peut-être même comme le Christ et qu'il est capable de quelque chose. Ce qui est horrible, c'est d'être en face de quelqu'un et de considérer qu'il n'est rien, même si on l'aide. Mais ce qui est beau et ce qui fait grandir le prochain, c'est de considérer que l'autre, il peut quelque chose. Qu'il a une grandeur, qu'il a une dignité, et que d'une certaine manière, c'est lui le sauveur. Et de reconnaître par rapport à l'autre que moi-même je suis blessé. Oui, je suis blessé parce que dans ma relation à l'autre, je reconnais aussi mes torts, je reconnais mes faiblesses, je reconnais que je ne suis pas un modèle de perfection et que j'ai moi aussi grandement besoin de l'autre. Ça, c'est de l'amour. Parce qu'il y a un dialogue possible, une réciproque possible, il y a un véritable accueil de l'autre. Il y a un passage très célèbre de l'Évangile qui dit, vous savez, à propos de la paille et de la poutre, « Qui es-tu, toi, pour dire à l'autre, regarde, enlève la poutre qui est dans ton œil, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. » Eh bien, c'est tout à fait ça. Aimer son prochain, ce n'est pas lui dire, « Mon ami, tu as une paille dans ton œil, viens, je vais t'aider à l'enlever. » C'est dire, « Mon ami, pardonne-moi, parce que je sais que moi, j'ai une poutre dans l'œil et j'aurais grandement besoin que tu acceptes de m'accueillir et de me pardonner malgré cela. » Et c'est encore la même chose que nous rencontrons dans ce bel épisode du lavement des pieds. Effectivement, oui, Jésus lave les pieds des disciples et il dit à la fin, faites la même chose, il faut vous laver les pieds les uns aux autres. Mais encore plus important peut-être, cet épisode de Pierre que je vous ai lu à l'instant, dans chapitre 13 de Jean, où Pierre refuse de se laisser laver les pieds par Jean. Et Jésus lui dit, si tu ne te laisses pas laver les pieds par moi, tu n'auras pas de part avec moi. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est pas Pierre qui dit « Moi, rien à faire, je laverai jamais les pieds de mes petits copains. » C'est que Pierre refuse de se laver les pieds. Il refuse de comprendre que lui a besoin de l'autre. Et aujourd'hui, l'action sociale a découvert cette chose-là. Qu'effectivement, il ne suffit pas de distribuer des soupes aux SDF. Il faut aussi leur redonner une dignité de sujet. Et même les Restos du Cœur, qui au départ ne faisaient que distribuer des soupes, aujourd'hui, comprennent que ça ne suffit pas, mais qu'il faut prendre la personne et qu'il faut l'aider à redevenir quelqu'un, l'aider à redevenir un sujet agissant et lui redonner confiance en elle et avoir un vrai accueil de la personne en tant que personne. Et dans ce commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est bien cela que je lis. Non pas « Tu dois l'aimer autant que tu t'aimes toi-même », mais tu dois l'aimer comme quelqu'un qui peut dire « moi-même ». C'est-à-dire que moi, je suis sujet, mais l'autre aussi, il est sujet. Et l'amour, ce n'est pas d'objectiver l'autre comme un objet de bonne œuvre, mais c'est de se dire l'autre aussi, il est un sujet. Et ça, ça change tout. L'autre est quelqu'un qui peut dire « je », quelqu'un qui peut agir, et ce n'est pas que moi qui peux donner, mais je peux aussi recevoir de lui. L'amour ne se fait qu'à cette condition. Et finalement, vous voyez, cette parabole est extrêmement complexe, parce que on ne sait plus très bien ce que Jésus veut dire. Alors oui, il montre une parabole, on voit un bon exemple moral. Finalement, dans la conclusion, il inverse tout en disant « Ah, je dois aimer mon prochain comme le blessé aime son sauveur. » Donc je comprends ce que c'est que l'amour à ce moment-là, c'est ça, c'est plutôt de l'accueil de l'autre. Et Jésus conclut en disant « Va et fais de même. » Mais fais de même que qui ? Le blessé n'a rien fait, donc fais de même que le Samaritain. Et finalement, en fin de compte, il redonne raison à la petite explication de l'école biblique. Ça veut dire que les deux sont vrais, mais c'est évident. Parce que, comme je viens de l'exprimer, l'amour n'est pas une chose à sens unique, et que l'amour est nécessairement dans les deux sens, et que l'amour est un passage entre deux sujets, entre deux personnes qui s'accueillent, qui se respectent, qui s'écoutent, et qui se considèrent chacune comme un être humain, comme un être pensant, comme un être pouvant dire « je », pouvant dire « moi », ayant des sentiments, ayant des souffrances, ayant des perfections et des imperfections. Et l'amour ne peut se faire que comme cela, parce que l'amour à sens unique n'existe pas. Et bien sûr, la base de tout l'amour pour nous tous, c'est que le Christ lui-même nous a aimés en premier, parce que, ainsi que le dit l'évangile de l'épître, le premier épître de Jean, pour nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Certainement, nous sommes comme ce Samaritain blessé, comme cet homme blessé, certainement le Samaritain est bien l'image du Christ qui est venu nous aimer, qui nous a sauvés, qui nous a aidés, qui nous a gardés, qui nous a rendus en vie, qui a pris soin de nous, gratuitement, sans condition, en premier, sans rien demander, c'est la pure grâce. Et certainement, nous sommes remplis de cette espèce de devoir, pas d'imposition, mais de logique essentielle, qui est qu'ayant été sauvés et aimés, nous ne pouvons qu'aimer celui qui s'est approché de nous, et qu'aimer tous ceux qui s'approchent ainsi de nous, et qu'aimer tous ceux qui sont mis sur notre route. À l'égard, nous faisons preuve évidemment de compassion et de miséricorde, et à l'égard desquels nous sommes invités à entrer dans une relation d'amour. Amen.